Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Prison Break.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Vous êtes dans un avion transatlantique. Je vous emmène en voyage aux États-Unis. Une sorte de rendez-vous en série inconnue. Je serai votre Frédéric Lopez à vous. Bon, plutôt maintenant votre Raphaël de Casabianca. Hein. Allez, allumez votre tablette et lancez la vidéo. Eh ? Vous avez reconnu ? Non ? Bah, attendez, ne me dites pas que vous ne reconnaissez pas cette musique de générique quand même. À moins que... Non, on va pas commencer sur de mauvaises bases ensemble, non, mais... Bon, quand même pas. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Non, mais alors là, Faflarage, là, vous reconnaissez. Ah, bon. Allez, je vais avoir une dizaine d'heures pour essayer de vous faire revenir dans le droit chemin du vrai générique, de la VO authentique, de Ramin Djawadi, le compositeur de Game of Thrones, hein, quand même, excusez du peu, parce que, tout de même, l'époque où on remplaçait les morceaux de la Lochifrine de Starsky & Hutch par une chanson un peu stupide, mais c'est révolu tout ça, hein. Quoi ? Bon ? Bon, ok, un de ces jours, je vous ferai un blind test musique de série dans Previously. Mais bon, on ne parle pas de ça, là, pour l'instant. Alors, vous avez trouvé où je vous emmène ? Ouais, je vous emmène sur le tournage de Prison Break. Oui, vous allez en prison. Vous allez y retrouver Goldange, alias Michael Scofield, et son frère Lincoln Burrows, dit Lick le déluge, de Fernando Sucré, de T-Bag, de C-Note, de Twinner. Nous sommes en août 2006, nous sommes en route pour Prison Break, et j'ai 10 heures de vol pour vous rafraîchir la mémoire. Prison Break date de 2005. La série est centrée sur deux frères. Le premier, Lincoln Burrows, est incarcéré dans le pénitencier de Fox River. Il doit être exécuté. Il a été reconnu coupable du meurtre du frère du président des États-Unis. Sauf que, il est innocent. Il s'agit d'une conspiration mise au point par un groupe appelé le Cartel, ou The Company dans la version originale. L'autre frère, c'est Michael Scofield. Lui, il a mis au point un plan complexe et totalement insensé pour faire évader son frère avant qu'il ne soit exécuté. Il va se faire lui-même incarcérer, mais possède avec lui tous les éléments pour son évasion, ainsi que les plans détaillés de la prison et des sous-sols. Parce qu'il était lui-même ingénieur, il a travaillé sur la prison. En fait, il s'est fait tatouer tout cela sur le corps, ce qui fait de lui un plan d'évasion vivant. Bien sûr, rien va ne se passer comme prévu. D'autres prisonniers comme Sucré, Abruzzi, T-Bag, C-Note, Westmoreland, Twinner et le Dijonté vont influencer sur le plan initial. Tout comme une brûlure qui, à un moment, va effacer une partie du tatouage de Michael. La première saison de la série regorge littéralement de rebondissements. Elle est menée à un train d'enfer, un rythme haletant, renforcé par l'environnement oppressant et en permanence dangereux de la prison de Fox River. Michael va, en plus, tomber amoureux de Sarah Tancredi, la doctoresse de la prison. Dans l'avant-dernier épisode de la saison, Michael, Lincoln et 6 autres prisonniers parviennent à s'évader. T-Bag voit sa main tranchée et l'avion, qui était le moyen de transport permettant à toute l'équipe de s'enfuir, décolle sans eux. Ils doivent maintenant fuir par eux-mêmes. Ah ouais, tiens, justement, à propos d'avion, le nôtre est en train de se poser. Bienvenue à Dallas. Quoi ? Ah ben non, on va pas en prison, hein. Parce que la première saison a déjà été tournée. Elle a été tournée dans une des prisons les plus célèbres d'ailleurs des États-Unis, le centre correctionnel déclassé de Joliet. Ce pénitencier, utilisé de 1858 à 2002, a vu circuler bon nombre de criminels célèbres. Et il se situe au sud-ouest de Chicago, ville dans laquelle était censée d'ailleurs se dérouler l'action principale. Mais ça, c'était la saison dernière, la première. Les personnages ne sont plus à Fox River, mais maintenant ils sont en fuite. Nous sommes en plein tournage de la saison 2. Le thème de cette saison, c'est un peu le fugitif. Mais le fugitif x 8. Les 8 de Fox River, comme on les appelle. Ils sont maintenant traqués sans merci par le FBI et par un de leurs meilleurs agents, l'agent Mahone, interprété par William Fichtner, qui est chargé de retrouver les 8 de Fox River, mais en fait, il travaille pour le cartel, la société secrète qui est à l'origine de l'incarcération de Lincoln. Et Mahone a pour but de les tuer les uns après les autres. Voilà donc pour la mise en situation. Bon, allez, à peine passé à votre hôtel pour y faire votre check-in et poser votre valise, on repart. Direction le studio où se tourne la série. Il s'agit des studios de Las Colinas, à Irving, dans la banlieue de Dallas. Ce sont des studios très connus dans la région, là où de nombreux films et séries ont été tournés, comme Walker Texas Ranger, par exemple. Ben oui, hein, il faut bien que ça soit tourné quelque part. Ou Robocop. Il y reste d'ailleurs des vestiges de tournages passés, comme le bureau ovale de Kennedy dans JFK, et le banc de Tom Hanks dans Forrest Gump. Une visite pour les touristes y est d'ailleurs organisée, mais nous, on a accès au tournage. C'est là maintenant que les décors permanents de la série y sont érigés, comme par exemple les bureaux des agents du FBI chargés de suivre les agissements des prisonniers. Bon, l'équipe est prévoyante, on a soigneusement dissimulé toutes les indications qui pouvaient nous en révéler un peu trop sur les épisodes à venir. Généralement, quand un journaliste se déplace sur un tournage, c'est un peu ce qui se passe. On cache un peu les choses pour ne pas que les gens soient trop spoilés. Et voilà Gary Bourne, un des producteurs de la série, qui va nous expliquer ce qui les a entraînés à venir ici, à Dallas. Après avoir tourné toute la première saison à Chicago, c'était avant tout parce que on y avait la prison de Joliette et la ville de Chicago. Une fois qu'on est arrivé à l'épisode 21, on sait qu'ils s'évadent de la prison. On les retrouve en fuite au cœur de l'Amérique. Et là, il nous fallait parcourir une sacrée distance en dehors de la ville de Chicago pour trouver le type d'endroit typique du centre des États-Unis. On devait rouler plus de 2 heures et s'éloigner de la ville pour trouver ce type d'environnement géographique. Mais ici, à Dallas, vous avez tout trouvé, hein. Alors, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine quand ils seront vraiment en fuite à travers le pays? Comment pouvons-nous faire ça, créativement et économiquement? On a commencé à regarder d'autres endroits au Nouveau-Mexique, en Arizona. Et aussi au Texas. Et on s'est dit qu'il fallait aller à Austin et à Dallas en repérage pour voir si on pouvait trouver une multitude de lieux qui faciliteraient le tournage. On est arrivé à Dallas, et là, dans un périmètre d'une cinquantaine de kilomètres, on trouve 13 petites villes, des villes moyennes et 2 grandes villes, Dallas et Fort Worth. Après une journée et demie de repérage, on savait qu'on tenait le bon endroit, car on avait accès à des styles très différents, rapidement. Ils étaient juste à portée de main et pas à de grande distance. Ah voilà, hein, là, on est vraiment dans le dur de la production d'une série. Même si ton budget est confortable, on parle quand même de 2 millions de dollars par épisode là pour Prison Break, ben la logistique du tournage est sans merci. Si tu dois consacrer 3 à 4 jours par épisode à voyager avec toute l'équipe et tous les acteurs, trouver des hôtels, tout installer, tout éclairer, puis faire repartir tout ce petit monde au studio, et revenir 2 à 3 semaines plus tard pour l'épisode, ben, je sais pas, 6 ou 7, ben là t'es battu, c'est infaisable. De tout avoir à peu de distance du studio, qui est ton camp de base, ben c'est crucial pour un tournage de série. Tiens, par exemple, quand David Chase m'avait raconté que les studios des Sopranos Silver Cup étaient à New York, et quand il devait se rendre sur un lieu comme le Pork Store à Kearney, une petite ville de banlieue, les embouteillages à New York sont tels qu'il a fait mettre en place dans le van qui le transportait un mini bureau de montage où il pouvait visionner Rush et choisir les prises, indiquer les modifications à faire, etc., etc. Bref, continuer de travailler. C'est une réalité. Toutes les séries y sont confrontées, même Game of Thrones. Mais si nous sommes ici, c'est surtout parce que Paul Schering, le créateur de la série, est là. Et c'est l'occasion de le rencontrer. Ah bah d'ailleurs, le voilà. Bah, on le prendrait à première vue pour un jeune assistant stagiaire. Il a un t-shirt, une casquette, bon, la casquette de rigueur, un casque sur les oreilles. Il a un peu de temps parce que le tournage se déroule sans lui. Il s'est laissé convaincre de rester ce soir pour dîner avec les acteurs avant de prendre le premier vol pour Los Angeles, le lendemain matin. Ben oui, parce qu'il doit continuer avec toute son équipe l'écriture des épisodes. Ouais, le pôle création est à Hollywood, alors que le tournage est à Dallas. Bon, il vient de valider d'ailleurs le générique français de Faflarage. Un peu à regret parce qu'il aime beaucoup son générique à lui, hein. Ben, le générique qui a été nommé aux Emmy Awards. Mais bon, ça le fait. On lui tend le micro et il va tout nous raconter. Qu'est-ce qui vous a incité à faire du concept initial de Prison Break une série télé?
Je travaillais avec des producteurs, Don Parouse et Marty Edelstein. Et ils sont venus à moi avec l'idée d'une personne qui se fait emprisonner dans le but d'organiser une évasion. J'ai trouvé ça intriguant. J'ai pensé que c'était une bonne idée, mais une idée stupide pour un être humain d'aller volontairement en prison.
C'est un peu tiré par les cheveux.
Ce n'est pas la chose la plus futée à faire. C'est un coup à se faire tuer. Pour satisfaire la nécessité de décliner cette idée en série, j'avais besoin de savoir pourquoi on ferait ça. C'est de là que vient l'idée des frères. Le système est plus efficace. Vous n'avez plus d'autre recours que de rentrer dans l'illégalité pour accomplir votre but.
J'ai lu que, initialement, ce n'était pas censé être une série, mais une mini-série. J'ai même lu que, à un moment, ça devait être une mini-série donc avec Bruce Willis et Steven Spielberg.
In the loop or something like that.
C'est vrai? C'est faux?
Non, c'est tout à fait exact. En fait, quand j'ai proposé le scénario du pilote, Fox a adoré, mais la série n'était pas très orthodoxe. Il ne savait pas quoi en faire parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de série à suivre à l'antenne, mis à part 24 heures chrono. Alors Gail Berman, qui était présidente de Fox à cette époque-là, a tenté de trouver des formats qui convenaient à cette histoire. Elle a fini par trouver des solutions innovantes pour la télévision américaine, comme l'idée de faire une telenovela ou de faire une série de 10 ou 12 épisodes. Et ensuite, la présidente a impliqué Steven Spielberg. J'ai donc rencontré Spielberg, qui était très enthousiaste et qui voulait être impliqué. Il allait en devenir le producteur. C'était formidable de le rencontrer et il affirmait que la seule chose qui pourrait l'empêcher de s'impliquer dans la production était qu'il décroche la réalisation d'un film. Il n'avait pas tourné depuis longtemps et il a fini par tourner La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Donc c'est tombé à l'eau. Dommage, car tout le monde souhaite travailler avec Spielberg. Et donc, la chaîne a tenté de trouver une autre personne, car Fox pensait profondément que pour qu'une mini-série fonctionne, il faut un grand nom qui lui soit associé. Et ils ont approché Bruce Willis, mais on ne savait pas s'il voulait en être producteur ou s'il souhaitait jouer dedans. Et à ce moment-là, Lost a été lancé et a fait un immense carton. Dès le lendemain, j'ai cet appel de la Fox.
Le lendemain ?
Absolument. Et Fox me dit, on lance la série. Et on ne fait plus une mini-série, mais d'un seul coup, on lance la série. La télé américaine, c'est un monde très étrange.
Parce que c'est vraiment un concept un peu tiré par les cheveux, mais on y croit et on suit la série. Vous atteignez la suspension de l'incrédulité sans problème.
You have a suspension of disbelief, which is fantastic. Congratulations.
On allait être fixé dès le tout premier épisode de la saison 1. Les gens vont-ils marcher ou pas? À la fin du premier épisode, Michael enlève sa chemise et on découvre les tatouages avec le plan. Si le public n'accepte pas l'idée, nous n'avons pas de saison. Nous n'avons pas de série. Mais dès que le public s'exclame « C'est génial, je veux en voir plus », c'est là où ils suspendent leur incrédulité. Pour moi, le grand mystère de la série a besoin de s'incarner dans le personnage. J'ai beaucoup discuté avec la chaîne. Dès l'écriture, ils me demandaient « On doit tout savoir sur ce personnage. » Dès les 10 premières minutes, on doit connaître toute son histoire. Et je leur ai dit « Je ne suis absolument pas d'accord. Il ne faut rien dire sur ce personnage. Qui est-il ? Plus on peut garder longtemps le mystère de qui est Scofield, plus les gens seront intéressés. Ce sera un personnage bien plus attirant. D'une certaine manière, c'est ce qu'est Steve McQueen en tant qu'acteur. Il ne dit rien, son personnage ne révèle rien. Et c'est ce qui le rend passionnant. Mais un personnage qui explique qu'il a une grand-mère malade et qu'il a besoin d'argent pour sauver sa mère qui est mourante, eh ben on s'ennuie.
C'est très intéressant que vous mentionniez Steve McQueen, parce qu'on cite souvent dans les interviews La Grande Évasion comme le fondement de la série.
La Grande Évasion est un de mes films préférés. C'est un film sympa et il fonctionne avec plusieurs personnages. Chaque personnage a sa propre histoire. C'est une relation entre James Garner et Donald Pleasence. Ils ont plein d'histoires, et c'est le style de base que l'on a pour la série, où 8 personnages évadés qui s'évadent, chacun pour des raisons différentes. Sinon, ça serait redondant et très ennuyeux. L'un d'eux s'évade par amour, un autre par soif de vengeance, un autre pour s'exonérer, un autre pour la vérité. Et vous savez, dans La Grande Évasion, l'évasion n'est que la moitié de l'histoire. Il y a ce qu'ils vont faire à l'extérieur. Vont-ils prendre une bicyclette, un avion, un train, un bateau? Vont-ils en Europe, en Asie du Sud-Est, au Mexique, en Amérique centrale? Comment s'en sortent-ils? Dans ce sens, oui, la grande évasion est une grosse influence. Je viens d'un monde où on fait des histoires bouclées. J'ai besoin de connaître la fin avant de raconter le début de mon histoire. Pour que je puisse écrire un pilote, il faut que je sache où ces histoires vont mener. On a donc fait ça pour la première saison et on s'est tenu à ce qu'on avait décidé. Il s'évade vers la fin de la saison 1 et toute la saison 2 se déroule en dehors des murs de la prison. On suit notre plan.
Ouais, d'ailleurs, j'étais un peu déçu quand j'ai entendu dire que vous comptiez faire une saison 3. Vous aviez calé 44 épisodes, mais maintenant vous allez délayer sur une saison 3 ?
Non. Les 44 épisodes se feront comme je l'avais imaginé à l'origine. Je ne change rien dans ces 44 épisodes. Matt Olmsted, le producteur exécutif qui travaille avec moi, m'a suggéré une façon de lancer une saison 3. Et j'ai trouvé ça très intéressant. La vérité, sur la télévision aux USA, c'est que s'ils ont une série qui fonctionne, ils ne veulent pas s'en séparer. Ils sont donc satisfaits si je raconte les choses comme je l'avais envisagé, tout en ayant trouvé une façon de raconter une histoire nouvelle et de réinventer les codes en saison 3. Et que ça ne changera rien aux deux saisons précédentes.
Ah voilà, c'est passionnant, hein. Ah, là, vous avez voulu être sur le tournage d'une série, et ben là, vous y êtes, hein. Vous êtes au cœur même de la création. Mais le temps passe. À peine quelques minutes pour que le réalisateur Kevin Hooks nous explique qu'il avait instauré un style visuel très claustrophobique pour la saison 1, dans la prison, avec toujours un élément d'ailleurs au premier plan qui renforçait l'idée d'enfermement du personnage, et des plans très larges et très mouvantes pour la saison 2, où ils sont tous en extérieur. Bon, hop, on n'a pas le temps, on quitte le studio, retour à l'hôtel. Vous avez maintenant quelques heures pour supporter le jet lag et vous reposer, parce que demain matin, la journée sera chaude. Il est 8h30 du matin. Vous êtes sur la route. Direction, le tournage de Prison Break. Même si votre chauffeur, qui vient de la production à l'habitude, les panneaux indicateurs marqués PB vous confirment qu'on est bien sur le bon chemin. Bon, un petit peu trop simple à repérer quand on a compris le truc d'ailleurs, hein. Les fans traquent les acteurs et la semaine dernière, des photos circulaient déjà sur des sites internet. Parce que là, on ne va pas au studio, mais on va en extérieur. Un petit chemin au milieu de nulle part et puis on arrive sur le camp de base avec des dizaines de semi-remorques. Bon, les semi-remorques, c'est nécessaire pour le matériel, la restauration, les loges des acteurs. L'équipe, elle, elle est en tournage, à 800 mètres de là, au sommet d'une petite dune qui surplombe un village résidentiel. On tourne les scènes finales de l'épisode 5. Le village en question est censé, dans la série, se trouver en Utah et s'appeler Tuel. Et c'est dans cette zone que l'argent de Charles Westmoreland a été enterré. Sauf que, ben, depuis qu'il a été enterré là, toutes les maisons ont été construites par-dessus. Et il faut un plan pour pouvoir creuser et récupérer le butin. Pour les acteurs et le reste de l'équipe, les horaires sont encore plus spartiates que les vôtres. Une voiture attendait les deux vedettes à 4h45 du matin pour les amener au maquillage, une heure plus tard. L'équipe technique, elle, est arrivée à 6h30. Le tournage a démarré à 7h15, soit 25 minutes après le lever du soleil. Si les plans avaient nécessité qu'on voie les tatouages sur le corps de Michael, l'acteur aurait dû arriver 4 heures plus tôt. Afin qu'on lui applique des calcomanies sophistiquées, les unes après les autres, pour former une fresque complète. Et le soir, une heure est nécessaire pour tout enlever, parce que ces marques sont tellement collantes qu'il est impossible de dormir avec. Au final, l'acteur fait des journées de 17 heures. Justement, les voilà. Michael Scofield et son frère Lincoln Burrows. Wentworth Miller, qui incarne Michael, apprécie beaucoup de porter aujourd'hui une chemise à manches longues. Sinon, il aurait été bon pour les décalcomanies, hein, et donc il n'aurait carrément pas dormi. Avant d'avoir décroché le rôle principal de Prison Break, il avait été la vedette de la mini-série fantastique Dinotopia. Mais rien d'autre. Et puis Dominic Purcell, lui, il a été John Doe, un endurant, une série absolument fascinante, mais qui n'a jamais connu de fin. Là, ils sont quand même un peu trop accaparés pour le tournage. Donc vous allez rester dans le coin, vous allez les observer, parce qu'ils sont dans chaque scène. Mais d'autres acteurs sont quand même un peu plus disponibles pour venir à votre rencontre et parler avec nous. Par exemple, Len Garrison, lui, il tient le rôle du jeune Twinner. On va discuter avec lui de son temps en prison, enfin... dans la saison 1, la prison de Joliet. La prison est elle-même un personnage de la série. C'est là que nous avons passé la plupart de notre temps. Elle a porté tellement de richesses et d'émotions. Ses murs sont chargés d'histoires, si anciens qu'ils contiennent tant de douleurs. C'est pour cela qu'on en parle tous comme d'un personnage. Et cela nous a beaucoup aidés. Vous commencez à comprendre pourquoi le tournage a démarré si tôt. Parce que là, il fait plus de 44 degrés sans aucune ombre dans le secteur. La maquilleuse veille à appliquer à chaque personne présente, vous, moi et évidemment tous les membres de l'équipe et les acteurs, un pare-soleil écran total, car les brûlures sont très rapides. Bon, Lance Garrison doit nous quitter pour prendre ses marques. Il y a deux énormes caméras cinéma qui sont sur les épaules des cadreurs et la scène est tournée entre 5 et 7 fois pour bien enregistrer les réactions et les regards de chaque intervenant. Link s'en prend à Twinner et entre chaque prise imagine avec lui d'autres sévices pour rendre la scène encore plus rigolote, bon, encore plus réaliste on va dire. Len opte pour un étranglement, il sera consciencieusement répété, bah oui parce qu'on répète le fait qu'on étrangle les gens hein, ici. Le moment venu, l'effet est absolument saisissant et déclenche des murmures approbateurs de toute l'équipe. Ça marche, c'est bon, c'est dans la boîte. Pendant ce temps, des machinistes creusent un trou dans le sol. Bon, ça sera là qu'ils tenteront de retrouver l'argent enfoui. Et puis les sandwichs arrivent. Ils disparaîtront en quelques secondes, hein. On insiste quand même auprès de vous, on insiste vraiment beaucoup pour que vous preniez sans cesse des bouteilles d'eau. Oui, vous avez à peine terminé une, hop, on vous en donne une autre. Parce que personne ne doit s'évanouir sous le coup de la déshydratation. Il fait vraiment très 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 chaud. À peine le temps pour les acteurs de se réfugier sous un pare-soleil, de passer un petit coup de fil rapide, et hop, les caméras sont maintenant installées au sommet de la colline, pour faire un plan général. Entre chaque prise, Robert Knepper, qui tient le rôle du dangereux T-Bag, s'éloigne un moment du groupe. Il a besoin de prendre du recul pour mieux appréhender les contraintes techniques. Et lors de la prise suivante, il glisse, mais il se rattrape de justesse sans que personne ne s'en rende compte. Entre les deux prises, vous allez faire connaissance avec cet acteur qui a commencé par un rôle dans La Loi de Los Angeles.
T-Bag
est vraiment un personnage formidable. C'est très différent de ce qu'on voit d'habitude à la télé. C'est un personnage très excitant, très complexe, très animal. Le New York Magazine l'a mis sur la liste des 10 meilleurs personnages de l'année. Le New York Times aussi. New York Magazine a même écrit que c'était un mélange de Hannibal Lecter et Truman Capote. Je pense que c'est très juste. Ce n'est pas simplement qu'un méchant pédophile. J'essaie de ne pas jouer les choses évidentes. De toute façon, je n'ai même pas eu le temps de me préparer avec les indices qu'on m'avait donnés. J'ai lu le script et j'ai suivi mon instinct. Et puis on a commencé à tourner. Et mon instinct me disait que c'est un homme qui vit le moment présent. Et le présent, c'est ce qui est le plus important pour lui. L'année dernière, c'était « Moi, je suis le roi dans la prison, le coq de la basse-cour. Je vais m'occuper de moi et si vous me tenez la poche, je veillerai aussi pour vous. » J'ai ressenti toutes les choses positives que ce type fait pour les autres en prison. Mais si vous doublez T-Bag, alors vous allez le payer et vous allez vous faire tuer. Je crois qu'on vous appelle pour le tournage. Il est 14h, c'est la pause déjeuner. Salade à composer soi-même, bœuf braisé, crevettes grillées. Ah oui, non mais c'est pas honteux, hein. Le tout à déguster sous une bâche, comme un gigantesque chapiteau qui peut accueillir la centaine de personnes du tournage. 6 nouveaux comédiens sont déjà arrivés pour les scènes de cet après-midi. Si tout va bien, tout sera en boîte à 20h. On est le dimanche 13 août. Toute l'équipe est maintenant réunie pour la soirée de lancement de la saison 2 de la série. C'est au 32e étage du W, un grand hôtel à la mode hyper branché, et le DJ déverse sa sono en compagnie de Wentworth, de Dominique et de tous les prisonniers et gardiens, alors que les écrans plasma diffusent des bandes-annonces du premier épisode. C'est l'occasion de parler avec les deux vedettes de la série. Là, par contre, elles sont maintenant totalement disponibles. Maintenant, en plus, ils te connaissent, l'équipe te connaît, donc ça va être bien plus sympathique de bavarder avec eux. Amaury Nolasco te confie qu'il est très content que son personnage de sucré ne réponde pas au stéréotype habituel du latino dealer de drogue, mauvais et dangereux. Rockman Dunbar, à savoir Cinote, va enfin pouvoir incarner non pas un dur, mais dans cette saison, un mari et un père de famille. Et tu fais connaissance avec Sarah Wayne Collis, qui est Sarah, avec Paula Deutstein, qui interprète le rôle de l'agent Kellerman, et même avec Wade Williams, le capitaine Bellick. Mais là, ceux qui nous intéressent, ce sont quand même les deux frères. Bah justement, tiens, voici John Doe. Voici Dominique Purcell. Comment voyez-vous Lincoln? Au début, c'est presque un méchant, hein.
Pour faire simple, Lincoln est un voyou à la petite semaine. Et son style de vie, explique les gens qu'il fréquente. Mais au plus profond de lui, Lincoln est un personnage qui veut se racheter. Pour un personnage de série, Lincoln, les téléspectateurs doivent croire que cette qualité, cette volonté de rédemption existe en lui. J'étais vraiment conscient de ça, je ne voulais pas que Lincoln devienne un personnage trop simple, un gangster idiot. Il devait avoir plusieurs facettes, mais il a tout de même un instinct animal. C'est un homme d'action. Pas un homme de mots. Pour lui, tout ce qui importe, c'est que les choses soient faites.
La prison a changé, d'après vous ?
Il est en prison depuis 3 ans quand la série commence. Et il a donc eu beaucoup de temps pour réfléchir. Il est certain qu'il a pensé à ce qu'il avait raté dans sa vie, à ce qu'il avait dû faire. L'évasion est quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, et ce serait pour lui l'opportunité de rectifier tout ça, et d'amener devant la justice tous ceux qui sont contre lui. Ça fait partie de ses objectifs.
Et voilà le héros de la série, Wentworth Miller, la révélation qui fait les couvertures des magazines. En vrai, ben, en fait, c'est un type extrêmement sympathique et il est très impliqué dans son personnage.
Michael avait planifié un certain nombre de choses pour cette saison 2. Il utilise ses tatouages car il y a mis des codes, des noms et des formules qui font référence à son évasion. Mais à mains égards, la saison 2 montre des choses qui ne sont plus sous son contrôle. Michael part en vrille. Dans la première saison, il est très calme, très concentré, et pendant la saison 2, comme les choses se passent mal, parce qu'il se sent coupable d'avoir blessé des gens, ou même d'avoir provoqué leur mort dans la saison 1, afin que son frère puisse s'évader, il commence à être tiraillé, émotionnellement et psychologiquement.
Est-ce que les producteurs vous ont prévenu dès le début de cette évolution ?
Les producteurs et les scénaristes ne nous en racontent pas tant que ça. C'est notre travail en tant qu'acteur de décider qui est notre personnage. Et quand quelque chose de nouveau arrive, c'est à nous de l'incorporer dans notre vision, même si c'est contradictoire. C'est parfois difficile et risqué. Certains éléments semblent ne pas toujours coller. Mais c'est ce qui fait la beauté d'une série comme Prison Break. Tous les personnages ont plusieurs dimensions. Ils sont très riches. Ils sont en guerre contre eux-mêmes, et Michael Scofield est définitivement en guerre contre lui-même, parce qu'il sait que ce qu'il doit faire pour libérer son frère nécessite qu'il se salisse les mains. C'est un homme bon, mais à la fin de ce voyage, il est déchiré. Il devient un petit peu comme les criminels qu'il rencontre derrière les barreaux. Un peu trop, même.
Donc votre personnage va devenir de plus en plus sombre au fil de la série ?
Oui, cette saison 2 va me permettre de montrer à quel point la prison a changé Michael. Il sera dans un état beaucoup plus sombre. La peur, l'anxiété et la frustration vont remonter à la surface et vont provoquer une onde de choc inattendue et dévastatrice. L'autre chose qui a changé dans ma perception du personnage, c'est qu'au départ, je pensais qu'il sacrifiait sa vie pour sauver son frère. Mais maintenant, je me demande si sa vie valait vraiment la peine d'être vécue. On se rend compte au cours de la première saison qu'avant la prison, Michael était un homme vide. Carriériste, ambitieux, il avait du succès, mais il était seul et isolé. Il attendait que la vie lui tape sur l'épaule et lui dise « C'est maintenant, voici ta cause, voilà ce à quoi tu es destiné. » En sacrifiant sa vie, en se mettant en danger de mort, Michael est plus vivant qu'il ne l'a jamais été.
Formidable, c'est fascinant.
C'est un personnage fascinant, ouais.
Vous avez aussi travaillé dans des sociétés de production.
Oui, j'ai été intérimaire dans le business pendant 6 ou 7 ans. Je travaillais dans des agences, des sociétés de management, des chaînes de télé, des compagnies de production. Ça m'a donné une bonne vision des coulisses et de comment on crée une série télé ou un film. Je pense que ça m'a aidé à arriver là où je suis aujourd'hui.
Vous voulez dire que ça vous a permis d'apprécier le succès de Prison Break sans que ça vous monte à la tête ?
Je vois beaucoup d'acteurs qui arrivent à Los Angeles et qui ont à peine 18 ans, qui sont beaux et qui n'ont jamais eu à travailler pour ça, ni à se battre. Et d'un seul coup, ils ont leur propre série télé, mais ils n'ont jamais vu les coulisses et ils ne savent pas à quel point c'est difficile de lancer une série. Ils ne savent pas à quel point ils sont chanceux d'être devant la caméra quand on crie « action ». Et à quel point c'est miraculeux. Je ne suis pas sûr qu'ils apprécient leur chance. Toutes ces années où j'ai galéré me permettent d'apprécier ce qui m'arrive aujourd'hui.
Il est tard, les comédiens rentrent parce que demain c'est encore une longue journée de tournage qui se présente à eux. Et bah toi aussi, il faut que tu rentres à ton hôtel parce que demain c'est retour à Paris. Une semaine plus tard, le premier épisode de la saison 2 réunit 9 400 000 téléspectateurs. Il se place en tête des audiences pour ce soir-là, même si cela représente un peu moins que le début de la série l'année dernière. Pour mémoire, c'était 10 500 000 spectateurs. Quant à nous, quelques semaines plus tard, le reportage fera la couverture du numéro de Télé 2 semaines du début septembre, avec la mention « Reportage exclusif ». La série fait des scores impressionnants sur M6, c'est la révélation de cette rentrée. La chaîne va s'empresser d'éditer non seulement le livre officiel américain de Paul Ruditis, mais aussi deux romans adaptant la série et écrits par Pierre Cérizier. Prison Break, la chasse à l'homme, et Prison Break, l'évasion est la seule issue. Par contre, la saison 3 de la série va marquer le début de la fin. Michael, T-Bag, l'agent Mahone et Bellick sont de retour en prison, incarcérés dans la très dangereuse prison de Sona, qui n'est gérée que par des prisonniers eux-mêmes. Cette fois-ci, c'est à Lincoln d'aider son frère à s'échapper. Sarah va être décapitée, et Michael va parvenir à s'enfuir. Mais ce n'est rien en comparaison de la saison suivante, où toute l'équipe devient une espèce de force mission impossible qui doit mener des opérations dictées par le gouvernement dans le but d'obtenir leur pardon. Et bah Sarah, finalement, elle est toujours en vie, elle n'est pas décapitée, c'était pas sa tête. Tout le monde s'en sort, sauf Michael, qui, sachant qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau, va se sacrifier. Pendant ce temps-là, on a revu, vous et moi, Wentworth Miller et Dominique Purcell au MIP à Cannes. On est resté en contact très régulier avec Robert Knepper. Et par contre, le malheureux Len Garrison qu'on a entendu tout à l'heure, il a suivi un très mauvais chemin. Conduisant en état d'ivresse, il a tué un passant et il a passé plusieurs années en prison. Réellement en prison. En 2015, Wentworth Miller et Dominique Purcell sont à nouveau réunis dans des rôles récurrents pour la série The Flash, puis pour Legend of Tomorrow. Et cela leur a donné une idée. Ils vont contacter Paul Schering et tous ensemble, ils vont convaincre la chaîne Fox de faire revenir Prison Break pour une saison limitée de 9 petits épisodes. Non seulement on était alors en pleine tendance des retours avec 24 Legacy, les X-Files, Twin Peaks et même Will and Grace et Heroes, pour ne citer que quelques-uns, mais en plus les 4 saisons de la série obtiennent encore et toujours un succès international via Netflix, qui a confirmé un jour que, dans son catalogue, c'était un des best-sellers. Dans cette toute nouvelle saison, Lincoln découvre que son frère, en fait, il n'est pas mort. Déjà, Sarah n'était pas décapitée, donc lui, il a bien le droit de ne pas être mort. Donc, il n'est pas mort, mais il est retenu prisonnier au Yémen, dans la prison de Ogia. Avec T-Bag, Sucré, Sinote et l'agent Kellerman, maintenant agent d'une organisation appelée Poséidon, ils vont donc tenter de lui renvoyer l'appareil et de le faire évader. Et c'est cette organisation, Poséidon, qui a proposé à Michael d'exonérer tous ses amis en retour de son entière et totale collaboration. Programmée en avril 2017, cette nouvelle saison limitée a plutôt été appréciée. Et en janvier 2018, on développe l'idée d'une saison 6. Donc, on n'en a pas fini avec les frères prisonniers. Voilà, j'espère que cette visite d'un tournage... c'était un peu fatigant, il faisait chaud, mais j'espère quand même que ça vous a plu. On repart quand vous voulez. « Dans le prochain Previously, on partira justement, mais à Hawaï, mais virtuellement. Hein. Non seulement pour explorer la police locale, mais surtout pour évoquer cette tendance de plus en plus omniprésente dans le monde des séries, les remakes. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.